Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, très heureux de vous recevoir pour une nouvelle édition des répliques du Nouveau Conservateur en l'absence de Paul-Marie Couteau, donc c'est Guillaume de Thiolois, votre serviteur, qui anime l'émission aujourd'hui. Dans le studio avec moi, Francis Jubert. Bonjour Francis.
Bonjour Guillaume.
Francis Jubert, philosophe, grand spécialiste praticien des soins palliatifs, et on va évidemment en parler. Nous allons faire une émission autour de l'euthanasie, mais tout de suite peut-être, est-ce que nous avons déjà au téléphone, on va avoir rapidement au téléphone un député, parce que un des objets de notre émission, c'est de parler un peu de la suite du débat parlementaire, puisque comme vous savez probablement, chers amis auditeurs, le Sénat vient de rejeter en deuxième lecture le texte sur l'euthanasie et de voter en deuxième lecture le texte sur les soins palliatifs. Et là aussi, on y reviendra parce que les deux sont importants. Mais donc, dès que Patrick Hetzel sera avec nous au téléphone, nous parlerons de la suite du débat parlementaire. Mais tout de suite, je me tourne vers Francis Jubert. Francis, vous avez écrit il y a peut-être quelques 6 mois ou 1 an « L'eugénisme qui vient », qui est un des opuscules de la collection France 2027, édité en partenariat avec le Nouveau Conservateur, donc pour préparer l'élection de 2027. L'eugénisme qui vient, c'est autour de l'euthanasie, mais ça dépasse largement le débat de l'euthanasie.
Oui, c'est la raison. Le titre est peut-être le plus important. Oui. Parce que quand on réfléchit sur la question de l'euthanasie et du suicide assisté, le plus important, c'est de voir quelle est la direction, ce vers quoi on s'oriente. Et ce vers quoi on s'oriente clairement. Les gens insistent beaucoup sur la dimension, le programme allemand des nazis, mais en fait, il faut vraiment revenir à la notion d'eugénisme.
Oui, oui.
L'eugénisme, ce n'est pas simplement le fait de supprimer les plus faibles, les plus vulnérables, c'est la sélection et c'est le tri. Mm. Alors, ce vers quoi on s'oriente avec cette proposition de loi qui distingue d'un côté les soins palliatifs et de l'autre l'euthanasie et le suicide assisté, c'est une logique de tri. Alors, cette logique de tri, on a commencé à la rencontrer au moment du Covid, avec les personnes âgées vulnérables, fragiles, qui effectivement étaient dans une situation délicate du point de vue médical, avec les conséquences que l'on sait. Et quand on, dans ce petit premier opuscule qui a été rédigé il y a 1 an, au moment où effectivement on discutait du premier... C'était la première version du texte, avant qu'il ne prenne les dimensions qui est celui que nous connaissons, oui. Qui en fait un document et qui fait de moi finalement quelqu'un qui s'est radicalisé. peut-être un prophète, mais en tout cas quelqu'un qui s'est radicalisé. Oui. Parce que je considère qu'on a été vraiment très très loin.
Francis, je vous interromps une seconde parce que je crois que nous avons Patrick Hetzel au téléphone. Monsieur le député, vous nous entendez ?
Oui, tout à fait, bonjour.
Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, comme je le disais, nous avons une émission consacrée aux suites parlementaires du débat sur l'euthanasie. Et vous êtes vous êtes un des grands orateurs de la résistance contre l'euthanasie à l'Assemblée nationale. Comment ça se présente ? Parce que, donc, je disais, le Sénat a rejeté en deuxième lecture. Quelles sont les suites du débat parlementaire ?
Alors les suites, la prochaine étape va avoir lieu dès la semaine prochaine, le 2 juin prochain, puisque il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui va réunir des députés et des sénateurs pour essayer de trouver un accord sur le texte qui est encore en débat, c'est-à-dire celui ayant trait à l'euthanasie et au suicide assisté, puisque l'autre partie du texte, c'est-à-dire celui concernant les soins palliatifs, eh bien, il a été promulgué.
On a trouvé un accord entre les deux chambres.
Voilà, ouais. Entre les deux chambres.
Absolument.
Donc, je formule l'hypothèse que cette commission mixte paritaire échouera.
Oui, ça paraît vraisemblable.
Il y a un écart quand même important, et c'est heureux, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc, le texte va revenir en débat à l'Assemblée nationale, puis retourner au Sénat. Donc, le débat parlementaire devrait, selon toute vraisemblance, se poursuivre.
D'accord. Quand vous dites c'est heureux, c'est-à-dire que vous pensez qu'il n'y a pas moyen que la CMP trouve un accord humaniste, pardon pour l'expression, parce que évidemment humanisme veut dire beaucoup de choses différentes, mais disons en faveur de la vie et de la dignité humaine, vous ne pensez pas que ça soit possible de trouver un accord en CMP sur ce...
Je ne pense pas, parce que les points de vue entre la tendance majoritaire à l'Assemblée et la tendance majoritaire au Sénat ne vont pas dans le même sens.
Mais, oui, c'est clair.
Si nous devions même formuler l'hypothèse que la CMP soit conclusive, il faut, dans un second temps, que ce texte issu d'une CMP conclusive soit validé d'une part au Sénat et d'autre part à l'Assemblée.
C'est ça.
Et je n'imagine pas un seul instant, ou alors, comment dire, nous serions dans quelque chose de très problématique, que un texte puisse être adopté au Sénat,
oui,
avec quelque chose de conclusif adopté entre l'Assemblée et le Sénat.
D'accord. Et donc, pour l'instant, l'Assemblée reste, j'allais dire, mordicus sur le fait qu'il faut absolument un droit à l'euthanasie ou à l'assistance médicale au suicide ou faire quelque chose comme ça. Il n'y a pas moyen de trouver un, de revenir un peu en arrière, si je puis dire, hein, mais.
Alors là-dessus, ce qui se passe, c'est que au moment où on se parle. Je ne peux prendre en considération que la deuxième lecture chez nous à l'Assemblée, où en réalité il y a quand même une majorité qui s'est dégagée en faveur du texte. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que l'écart s'est quand même réduit entre la première et la deuxième lecture, et que au fur et à mesure, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est extrêmement important que les débats se poursuivent, parce que au fur et à mesure que les débats se poursuivent, un certain nombre de collègues se rendent compte
des conséquences.
Non seulement des conséquences, mais aussi de ce qui est en train de se passer. Et que, y compris, alors moi je suis très très hostile à ce texte, mais même des collègues qui ne s'étaient pas forcément investis dans le détail du texte, ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un écart entre ce qu'on leur annonçait et ce que rend possible le texte issu des débats. Quoi. Et ils se sont notamment rendus compte qu'on ne parlait plus du tout uniquement de personnes qui étaient vraiment,
en fin de vie,
entre guillemets, arrivées en fin de vie, mais que cela pouvait concerner un nombre beaucoup plus important
de personnes. Quoi.
Et d'ailleurs, comment dire, on voit bien que quand on commence à évoquer des chiffres, on peut quand même assez facilement arriver à quelque chose comme 20-25 000 personnes par an en France, quoi, assez rapidement.
Ah oui, à ce point-là, d'accord.
Avec le texte en question. Donc ça veut dire, si vous déclinez ça sur 365 jours dans l'année, vous voyez quand même qu'on est, on n'est plus du tout sur un texte qui traiterait uniquement des personnes qui connaîtraient des souffrances réfractaires. On est très très loin de ça. Ouais. Et que le projet politique qui est porté par les promoteurs de ce texte va dans une direction totalement différente.
Je sais bien que vous êtes de droite, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que pour moi ça fait partie des mystères de ce débat, comment est-ce que vous comprenez que la gauche soit aussi majoritairement favorable à un débat, à un texte qui est quand même le texte de l'élimination des plus faibles?
En fait, je pense que une partie de la gauche a perdu ses repères. Et quand je dis,
je crains qu'une partie de la droite aussi. Mais...
Oui. mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Je partage ce que vous venez de dire dans le sens où nous avons une situation qui est quand même ce sont surtout des personnes vulnérables qui seraient concernées.
Ouais,
mais en réalité, il y a cette idée assez folle de la liberté individuelle. Et d'ailleurs, l'argument qui est avancé, c'est de dire en fait, ça n'obère pas sur
les droits des autres.
Ce qui est rigoureusement faux, parce que en réalité, tout ça se fera au nom de la société française. Et à ce titre, ça nous engage et ça nous oblige. Donc, c'est assez étonnant. Alors, ceci étant dit, vous avez quand même, au sein même de la gauche française, des voix qui se sont élevées. Chez les socialistes, un Dominique Potier.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Chez les communistes, un Stéphane Peu, avec d'ailleurs une voix assez importante. Le député communiste Stéphane Peu est très clair sur le sujet et ce qu'il craint d'ailleurs. Et je le rejoins sur ce point. Il dit que c'est un texte d'inspiration extrêmement libérale.
C'est ça.
Et en réalité, ce texte ipso facto va créer une offre Et on le sait bien, sur un marché, entre guillemets, lorsque vous créez une offre, eh bien, à un moment donné, la demande va se développer.
Bien sûr.
Et on aura des personnes qui finiront par se poser des questions qui, aujourd'hui, ne se posent pas à elles. Sans compter que, enfin, l'un des sujets où on s'est régulièrement monté au créneau, mais hélas sans succès, au moment où on se parle, tous les ans dans notre pays, il y a 3000 personnes qui sont condamnées pour abus de faiblesse.
Abus de faiblesse,
condamnation,
absolument.
On parle
absolument.
Bien de condamnation.
Absolument.
Et donc, quand on parle de condamnation, c'est qu'on peut considérer qu'il y a bien plus de cas que les 3000. Et je vous laisse imaginer, un texte de ce type-là aura aussi des conséquences parce que, voilà, quand vous devez, quand la famille doit se cotiser pour payer une institution pour tel ou tel proche, on voit ce que cela peut potentiellement avoir comme conséquence.
Bien sûr. Et alors, CMP a priori non conclusive, ça revient à l'Assemblée et ça revient au Sénat dans la foulée, c'est ça, hein ? Il y a une troisième lecture dans les deux chambres ?
C'est ça, il y a une troisième lecture dans les deux chambres et si ça n'aboutit pas, ça repassera par une nouvelle lecture à l'Assemblée.
D'accord. Donc, forcé par le gouvernement, si j'ai bien compris, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que la discussion peut continuer jusqu'à ce que le gouvernement dise que ça ne continue plus.
C'est ça.
D'accord.
C'est exactement.
Et donc c'est leur responsabilité et il faut qu'ils assument leur responsabilité, on est d'accord.
Tout à fait, tout à fait.
D'accord. Et dans quel esprit, est-ce que le groupe des opposants à l'euthanasie à l'Assemblée est combatif ? Comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez qu'on va encore diminuer la majorité ? Comment vous voyez les choses pour la...
Je l'espère. Je fais partie de ceux qui considèrent que une bataille, d'abord, les batailles, il faut les livrer.
Si absolument, les absolument. Pas, les, la seule gagner. Bataille qu'on est sûr de perdre, c'est celle qu'on n'a pas livrée.
Voilà, c'est celle qu'on n'a pas livrée, exactement. Et donc, il faut évidemment continuer ce combat. Je suis aussi favorable, en fait, et d'ailleurs, c'est pour ça que mais nous étions extrêmement plus d'une centaine de parlementaires. Nous avons aussi, même plus que 100, je crois que nous sommes même, si je ne dis pas de bêtises, 200 parlementaires à avoir co-signé la proposition
de référendum.
De référendum de Spinner, de notre collègue Francis Spinner. Donc, quand même, ça aussi, peut-être que ça pourra prospérer. Mais ici, à l'Assemblée, le combat va se poursuivre parce que ce combat a véritablement pour objectif de démasquer aussi le projet. Parce que quand on débat lors de la deuxième lecture à un moment donné, on a vu les promoteurs de ce texte aller jusqu'à déposer des amendements pour évidemment vouloir faire en sorte que les directives anticipées puissent être utilisées pour mobiliser l'euthanasie ou le suicide assisté. On a vu qu'il y a eu des volontés d'y inclure évidemment des mineurs. Et donc, à un moment donné, suite à cela, le rapporteur général qui était au banc, en l'occurrence M. Falorni, est intervenu en disant qu'il fallait raison garder. Il a demandé à ses promoteurs de retirer ses amendements et à un moment donné, il a lâché une phrase qui est quand même assez extraordinaire. À force de vouloir avoir tout de suite, vous risquez de ne rien avoir. Donc, on
c'est
voit
extraordinaire,
bien qu'on est toujours sur des projets de nature sociétale, c'est-à-dire que le principe est toujours le même, il s'agit de mettre le pied dans la porte, et d'ailleurs d'autres comme l'ancien député Jean-Louis Touraine se sont fortement exprimés sur le sujet en disant, vous savez, ne demandez pas tout de suite, tout cela
les mineurs ça viendra plus tard, c'est ça.
Voilà, parce que en fait ces droits entre guillemets nouveaux, et bien ce sont des conquêtes, il faut y aller
par étapes,
et tout ça, voilà, et on sait que tout ça va devenir irréversible. Donc en fait l'objectif de ces débats, c'est aussi de mettre en relief ces dessins. Et je pense que cette mise en relief, évidemment, elle est de nature à montrer à un certain nombre de nos collègues que voter en faveur de telles dispositions, eh bien, c'est aller
mettre un pied
à l'encontre, évidemment, de l'intérêt général. Et puis surtout, c'est une modification profonde de ce que doit être notre société.
Pardon de vous interrompre une seconde, mais en vous entendant, évidemment, je partage à 100% ce que vous venez de dire, mais j'entends aussi le discours des braves députés socialistes qui disent, qui pourraient vous dire, n'êtes-vous pas un peu complotiste de croire que l'euthanasie des mineurs arrivera derrière? Est-ce que c'est pas un peu, est-ce que vous faites pas le jeu de, je sais pas quoi, des néo-fascistes et Dieu sait quoi encore, mais donc est-ce qu'il y a une vraie raison de craindre que ça s'aggrave d'année en année?
Oui, mais en fait, cette raison, c'est pas du tout, et d'ailleurs, preuve en est, les amendements déposés.
Oui,
encore une fois, ce ne sont pas des fantasmes, et des amendements déposés par mes collègues qui aujourd'hui siègent à l'Assemblée nationale, des amendements très largement co-signés.
Absolument. Merci beaucoup de le dire, parce que de fait, vous avez mille fois raison. Il faut rappeler quand même que des gens qui soutiennent cette mesure soutiennent en fait des mesures beaucoup plus radicales encore que ce qui sort de la loi Pardini.
Tout à fait. Et donc, ils sont bien dans une logique où en réalité, ça n'est pour eux, peut-être pas pour l'intégralité d'entre eux, mais en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, il s'agit de vouloir aller bien plus loin, parce qu'ils sont dans une vision, c'est la tentation démiurgique, c'est-à-dire l'être humain doit absolument tout maîtriser, y compris sa mort.
Sa naissance et sa mort, c'est ça, Gaëtan.
Tout à fait.
Francis, est-ce que vous voulez réagir un peu aux propos de Patrick Hetzel?
Oh non, je suis au contraire même surpris que vous soyez aussi prudent et dans la manière dont vous formulez effectivement les intentions des uns et des autres. Juste avant que vous ne preniez la parole, je disais que je m'étais radicalisé. Au début, j'ai essayé de comprendre, j'ai suivi les débats comme tout le monde et j'ai participé en tant qu'expert à la convention citoyenne pour traiter du sujet de la souffrance et la douleur. Sont-elles de réfractaires et peut-on les prendre en charge ou pas? Et ce que je constate, c'est que quoi qu'on dise, quels que soient les arguments que l'on pose, chaque fois on se fait renvoyer dans ces buts, parce que il y a une volonté de jusqu'au-boutiste, ouais, qui devient frappante. Et plus on regarde les amendements, plus on se demande, mais on va aller jusqu'où? Et quand dans le premier opuscule dont on parlait, l'eugénisme qui vient, de fait, cette logique de tri vers lequel on va, on y va tout droit, personne n'en parle effectivement, le député Falorni, l'ancien rapporteur de la proposition maintenant, nous interdisait et a interdit aux parlementaires que vous êtes de parler d'euthanasie et de suicide assisté parce que c'était une référence horrible, mais en réalité c'est une référence horrible qui doit être prononcée et vous êtes quelques-uns encore heureusement aujourd'hui à dire les choses, à nommer les choses et à faire en sorte que petit à petit le débat apparaissent pour ce qu'il est, on va vers quelque chose qui est proprement inacceptable et qu'on doit rejeter. C'est la raison pour laquelle moi, à titre personnel, je pense que demander un référendum, c'est une bonne chose, mais il faudrait demander surtout maintenant le retrait pur et simple, et ça, ça appartient au gouvernement, de retirer ce texte.
Oui, bah c'est sûr. Et d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, cette tentation des promoteurs du texte et cette volonté d'euphémiser, y compris dans les termes utilisés, on a entendu assez régulièrement, là où en réalité il s'agit de donner la mort, les termes qui sont utilisés, c'est il s'agit d'éteindre la lumière. Vous voyez, c'est vrai que d'ailleurs, j'ai à un moment donné, j'étais apostrophé, et d'ailleurs, elle a eu des propos extrêmement violents, y compris à mon encontre, Madame Rousseau, qui à un moment donné m'a apostrophé en disant « Vous êtes une partie du problème parce que vous continuez
parce que vous utilisez des termes nazis. »
d'euthanasie et... Ouais. Et de suicide assisté. À aucun moment, je lui ai indiqué en réponse à cela que, au contraire, c'est moi qui considérais qu'elle avait une vision totalitaire des choses.
Absolument.
À aucun moment, je ne me laisserai contraindre dans ma manière de m'exprimer sur ces questions, et que nous devons la vérité à nos concitoyens, et que la vérité à nos concitoyens, c'est de nommer les choses.
Absolument.
Et ne pas les nommer, en réalité, c'est contribuer au malheur du monde. Mais ça, nous le savons aussi.
Absolument. Peut-être un dernier mot, si vous avez encore deux minutes à nous accorder. Vous avez parlé, il y a un instant, de la proposition de référendum d'initiative partagée. Donc, cette proposition a franchi une première étape, c'est-à-dire qu'on a le quota, si je puis dire, de parlementaires. L'étape suivante, c'est le Conseil constitutionnel valide. Comment ça se passe après ?
C'est ça. Là, c'est au Conseil constitutionnel de se prononcer. Mais ça permet une nouvelle fois... d'amener le sujet dans le débat public.
Dans le débat public, c'est
ça. Par contre, ce qui m'étonne quelque peu, c'est le fait que, malgré les efforts très importants qui ont été effectués par le sénateur Spinner et les parlementaires que nous sommes à être co-signataires de cette démarche, en réalité, la presse s'en fait quasiment nullement l'écho.
Absolument.
Et ça aussi, c'est alors que ce dont il est question, sur un sujet comme celui-là, c'est simplement redonner la parole au peuple et considérer que, typiquement, comme il s'agit d'une rupture sociétale majeure, ça aurait énormément de sens que de donner la parole à nos concitoyens.
Merci beaucoup, cher monsieur le député, et évidemment, tous nos voeux, toutes nos prières, je ne sais pas si on peut utiliser le mot, mais quand même, tous nos voeux vous accompagnent pour cette nouvelle lecture à l'Assemblée. On sait que vous êtes un peu sur la ligne de front, et sachez en tout cas que derrière vous, il y a une deuxième ligne qui tient et qui vous soutient. Donc,
Je puis vous dire que j'en ai parfaitement conscience, et je vous en remercie infiniment.
C'est bien peu de choses. Bon courage, en tout cas, pour la nouvelle discussion. Et voilà, merci beaucoup, cher monsieur le député, pour votre courage. Bon, cher Francis, on va revenir dans le studio. On peut peut-être dire un petit mot sur cette proposition référendaire. D'un côté, je suis très favorable à ce que on utilise cette manœuvre pour mettre le débat dans l'opinion publique, parce que un des problèmes majeurs qu'on a, c'est que on parle au nom du peuple sans jamais lui demander son avis. Donc c'est très bien qu'on puisse poser le débat dans l'opinion publique. En même temps, la contrepartie de ça, c'est que par ailleurs, même s'il y avait une majorité qui donnait au référendum, qui disait que la majorité du peuple était favorable à l'euthanasie, ça n'empêcherait pas que ça reste un meurtre d'innocents.
Ça reste un meurtre d'innocents et ça pose un problème qui est non seulement un problème démocratique, mais également un problème par rapport aux médecins.
Absolument, absolument.
Aujourd'hui, il y a deux pages complètes dans le Figaro sur lesquelles je me permets d'attirer l'attention des auditeurs. Où l'on voit notamment la représentante de la SFAP, le docteur Peruccio, qui, au nom de tous les médecins, mais également des étudiants en médecine, des psychologues, des infirmières coordinatrices d'EHPAD, ce qu'on appelle maintenant les maisons France Autonomie, disent « Écoutez, nous n'avons pas été entendus ». Donc, en fait, à la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, on a détricoté finalement la médecine, on a dénaturé la médecine. C'est ça le fond du problème. Et les médecins ne sont pas présents dans le débat. On fait semblant de les avoir écoutés. Quand les médecins, des soignants sont intervenus dans leur convention citoyenne, on avait tellement préparé les conventionnels à entendre autre chose que ce qu'ils disaient, c'est qu'ils croyaient entendre les fameux fantasmes dont parle Patrick Hetzel sont là. C'est-à-dire qu'en fait, on dénature les mots, on prépare les esprits, et finalement, on fait voter conforme. Et dans le cas précis, les médecins, les soignants de manière générale, devraient être entendus, et il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce qui est écrit ce matin. Le vice-président de l'association des étudiants en médecine, écoutez, nous on a un problème, c'est que nous sommes quand même les premiers concernés. En outre, nous ne sommes pas préparés. Imaginons que cette loi passe, nous ne sommes pas formés. Et là, je fais une incise.
Allez-y.
Déjà, quand il s'agissait des soins palliatifs, on pourrait se satisfaire de ce qui a été voté maintenant, parce qu'on dit que c'est les soins palliatifs qu'il faut encourager. Déjà, en ce qui concerne les soins palliatifs, ils étaient souvent, parce que mal connus... Les parents pauvres de la médecine, il y a à peu près 1 000 000 de ce qu'on appelle les palliatologues, qui sont les spécialistes de la médecine palliative, et déjà, ceux-là étaient en nombre très insuffisant pour faire face aux besoins énormes que l'on voit en matière de soins palliatifs, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en ville. Et aujourd'hui, imaginez que cette loi passe, que ce projet, cette proposition de texte soit votée par les deux chambres, votée conforme, ou bien qu'on arrive au terme de ce processus législatif. Eh bien, il faudra qu'on forme des euthanasieurs.
Oui, c'est ça.
On va demander à des professeurs de médecine d'enseigner l'art de tuer la mort, des malades, de provoquer la mort. D'un côté, on aurait dû former en grand nombre, et c'est encore l'objectif, parce que pour l'instant, nous sommes dans ce cadre-là. On devrait encourager la formation et la multiplication de diplômes universitaires formant les médecins à la prise en charge de la souffrance. Tenez-vous bien, je vais vous donner une nouvelle aujourd'hui. Vous qui êtes, vous n'êtes pas Versaillais, certains pourront reprocher que j'étais Versaillais, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais l'hôpital de Versailles, l'hôpital Mignot, vient de supprimer son service de douleur.
Ah bon ?
C'est absolument... À Melun et à Mantes, on a supprimé, au moment même où on dit qu'on n'a qu'une vingtaine de services de soins palliatifs, il faudrait en avoir le double, eh bien on a supprimé le service de Mantes, de Mont-la-Joly et de Doudan, et de la même manière, aujourd'hui, c'est l'hôpital Mignot qui ferme son centre douleur. Alors, si vous n'avez plus de centre de référence dans des hôpitaux comme ça, si vous n'avez pas de médecins formés, alors ils ne sont pas formés déjà aux soins palliatifs, mais ils ne seront pas formés, ou en tout cas il n'y aura pas de professeur d'université ayant donc la compétence pour les former. Je crois que vous avez une pause.
Oui, je crois qu'on doit écouter un bobino, comme on dit sur Radio Courtoisie, pour soutenir la radio.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Eh bien voilà, chers amis téléspectateurs, nous revenons dans le studio de Radio Courtoisie. Vous savez évidemment que Radio Courtoisie ne vit que grâce à votre soutien. N'hésitez pas, ça fait des décennies qu'une presse dissidente existe. C'est grâce à vous. Merci beaucoup et continuons. Ensemble, nous avons absolument besoin... Vous avez entendu, comme moi, les débats autour du service public ces dernières semaines et ces derniers mois. Il est évident que nous sommes un petit peu mieux gérés que le service public. Entre nous, c'est pas très difficile. Mais voilà. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à soutenir Radio Courtoisie. C'est important pour notre avenir à tous. On a besoin d'avoir des médias pro-français, puisqu'on est quand même aujourd'hui dans un monde qui n'est pas exactement favorable à la défense de la France et de sa civilisation. Revenons donc au sujet de l'euthanasie. On parlait à l'instant, cher Francis, de cette question du référendum qui a été proposé par Francis Schmitt. Moi, j'avoue que j'ai été très surpris, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai été très agréablement surpris du comportement de la majorité sénatoriale. J'avoue que j'ai passé longtemps au Sénat, j'avoue que je pensais que le Sénat serait beaucoup plus poule mouillée sur le sujet de l'euthanasie. Il a été courageux quand même. Il a refusé deux fois le texte. On n'est pas obligé de faire de la pub politique, mais enfin, j'ai trouvé que Bruno Retailleau avait fait le job quand même. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Le problème, c'est de faire le job, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, au-delà de la position qu'a prise le Sénat, de ce qui se profile avec la CMP, de la troisième lecture, je pense qu'on est quand même dans une logique d'acharnement parlementaire. Il y a
absolument,
un prurite de vote.
L'acharnement thérapeutique pour l'euthanasie est assez délirant.
Franchement, et quand je parle d'acharnement parlementaire, je pourrais parler d'acharnement idéologique.
Ouais, absolument.
Même si, effectivement, le président de Retailleau a fait le job, comme vous dites.
Pardon pour l'expression.
Je pense
on ne devrait
que,
pas dire comme ça sur Radio Fantasy.
Honnêtement, aujourd'hui, il y a une position maintenant très radicale à avoir. C'est pour ça que je vois le durcissement du monde soignant. Ouais. Je pense qu'il est parfaitement fondé de monter au créneau. Le professeur Sapin vient de faire circuler une pétition demandant aux médecins de signer en disant « Écoutez, c'est pas mon métier, ils sont pas faits. » Un médecin n'a pas pour métier d'être euthanasieur.
Absolument.
Donc ce qui se profile, absolument, c'est ça, c'est pas autre chose. Absolument. On a dénaturé la médecine, on a redéfini le soin. Si on a fait sa médecine, c'est pour accompagner, c'est pas pour donner la mort.
Absolument.
Et ça, c'est quelque chose d'aussi, c'est aussi simple que ça. Donc on peut multiplier les amendements, on peut faire l'obstruction parlementaire, mais on est dans cette logique-là. Maintenant, le vrai courage politique,
oui, c'est
ce
de refuser que le texte soit
obligé de faire en sorte
que le gouvernement
de se
retire
mobiliser
le texte.
Toutes tendances confondues, parce qu'effectivement, il y a une infime minorité une toute petite minorité,
absolument,
qui est en train, alors poussée par la DMD, parce que c'est quand même
il faut nommer les lobbies.
La DMD, avec la nouvelle présidente du CESE à la manœuvre aussi maintenant, Claire Toury.
Je rappelle que vous avez écrit une excellente tribune sur le site des Nouveaux Conservateurs. Chers amis auditeurs, si vous voulez connaître Claire Toury, la nouvelle présidente du CESE, organisme qui mériterait largement d'être supprimé, mais Francis Gilbert a écrit une tribune pour décrire cette nouvelle présidente, et objectivement c'est effarant, enfin, c'est vraiment la fabrique de l'opinion, c'est la fabrique du consentement.
C'est la fabrique de l'opinion, c'est la fabrique du consentement, c'est-à-dire qu'on amène petit à petit les Français, et demain tous ceux qui auront été, imaginez que vous votiez, que cette proposition soit votée, l'acte de donner la mort va être banalisé. Et si au départ vous êtes contre, c'est exactement le problème de ce qui s'est passé avec l'avortement. Hein. Les gens étaient contre, personne ne veut se présenter, on ne va pas dire « quel est votre métier, je suis avorteur ». De même que personne n'osera dire « mon métier, c'est euthanasieur ». Déjà dire qu'on est palliatologue, ça fait un peu peur. Euthanasieur, Falorni n'aimerait pas, parce qu'effectivement il y a la référence au programme Action derrière, mais c'est quand même ça, il y a tout, ce qui se profile, c'est une seule société qui est vraiment, d'une certaine manière, qui est mortifère. Dans ce contexte-là, il faudrait que les parlementaires, toutes chambres confondues, disent non, et qu'on mette le gouvernement en demeure de retirer son texte. Honnêtement, tant qu'on ne fera pas ça, parce que là, on peut dire, attendez, on fait diversion. Alors, qu'on veuille gagner du temps, je comprends parfaitement. Ce n'est pas dilatoire. Ce sont
Il y a des cavaliers législatifs.
Il y a plusieurs hypothèses. D'ailleurs, on a commis une tribune.
On a signé ensemble avec Maroun Badr.
Avec Maroun Badr sur le sujet pour dire quelles sont les hypothèses possibles et crédibles par rapport au futur de ce texte. Bon, maintenant, c'est l'une d'entre elles, c'est la troisième des hypothèses qui a été retenue. On voit ce vers quoi ça nous enchaîne, mais le vrai sujet, c'est et d'ailleurs Patrick Hensel vient de le dire, il faut démasquer le projet.
Oui,
les gens ont horreur qu'on leur dise les choses telles qu'elles sont. Donc surtout ne prononçons pas le mot, donc il faut prononcer le mot, il faut dire qu'on va... Ce texte est un texte qui amènera les médecins, veut pas, c'est-à-dire qu'ils soient dans un établissement public ou dans des établissements confessionnels, puisqu'on ne leur donne pas la possibilité, l'objection de conscience qui devrait être accordée à ces établissements privés qui ont dans leur charte de ne pas provoquer la mort.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur l'objection de conscience collective? Parce que tout le monde parle de l'objection de conscience des médecins, ce qui est évidemment fondamental, mais vous avez écrit plusieurs fois des articles sur l'objection de conscience collective.
Effectivement, c'est Falorni toujours le même.
Oui, Falorni parlait de les murs n'ont pas de conscience.
Les murs n'ont pas de conscience, et je pense exactement le contraire. Les murs ont une conscience. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'après avoir entendu le rapporteur s'exprimer de cette manière-là, un des médecins, une religieuse qui travaille pour les petites sœurs des pauvres, dans les EHPAD, comme médecin d'ailleurs, de même que le président de l'Ordre de Malte et plusieurs autres acteurs, les diaconesses de Reuilly, plusieurs acteurs du soin et de la prise en charge des personnes vulnérables, parce que finalement, quel est le public derrière tout ça?
C'est
les personnes âgées, c'est les personnes fragiles. Moi, je parle du parcours de soins. En fait, aujourd'hui, il faudrait parler du parcours de vie. Depuis notre naissance jusqu'à la fin, on connaît différents âges. Ouais. Et notre parcours de vie, nous sommes accompagnés tout au long de ce parcours par, effectivement, notre naissance des sages-femmes, des gynécos, obstétriciennes ou obstétriciens, et puis au fur et à mesure
des généralistes.
Et on se retrouve avec des grands spécialistes, qui sont ceux-là, des gériatres. Et dans les EHPAD, dans ces maisons France Autonomie, baptisées encore une fois de la même manière, parce que finalement, regardez bien, maison France Autonomie, maison d'accompagnement, les fameuses maisons d'accompagnement, si ce sont des maisons dans lesquelles on accompagne les personnes âgées vers la mort, parce qu'elles seront, ces maisons d'accompagnement, elles auront été encouragées par le gouvernement. Si le gouvernement instruit la possibilité de donner la mort, elles seront obligées, n'ayant pas la possibilité
d'offrir ce service,
d'offrir ce service, tout simplement, c'est un engagement, ça deviendra légal.
Donc
si c'est légal,
public,
on encouragera effectivement ça. Et personne ne pourra se prévaloir de sa charge, de son identité, de ses convictions.
Absolument, de ses convictions.
Autant à titre personnel. Bonjour Alice.
Je salue l'arrivée dans le studio de Marie-Lise Pélissier. Bonjour Alice.
Bonjour Guillaume.
Porte-parole de la Marche pour la Vie. On était en train de parler avec Francis Gilbert de l'objection de conscience collective et du fait que les institutions religieuses, mais pas uniquement, qui voulaient pratiquer les soins palliatifs en particulier, seraient contraintes d'offrir le service public de la mise à mort.
Absolument.
Mais alors Marie-Lise, puisque vous arrivez à l'instant, merci beaucoup déjà d'être avec nous. Comment vous voyez la suite du débat? Donc on avait tout à l'heure Patrick Hetzel pour parler de la suite du débat parlementaire. Donc il nous expliquait qu'il y avait une CMP dans quelques jours, commission mixte paritaire dans quelques jours, puis troisième lecture à l'Assemblée et au Sénat. Vous pensez qu'on peut réduire la majorité à l'Assemblée, puis gagner en quatrième lecture, si je puis dire?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas perdu notre temps. Hein. C'est le texte a été voté en seconde lecture en février,
à
l'Assemblée. Ensuite, il est repassé au Sénat. Mais entre février et maintenant, nous avons continué à sensibiliser les parlementaires. Je dis nous, bien sûr, c'est tous les opposants, que ce soit les médecins, que ce soit tous ceux qui sont impactés de près ou de loin, qui travaillent dans des centres médico-sociaux, etc. Et les malades, évidemment, les patients,
les éligibles,
qui ont de plus en plus pris la parole. Je lisais encore ce matin dans le Figaro Louis-Benoît Barthes, si je ne me trompe pas, qui est atteint de la maladie de Charcot et qui a fait une tribune sous la forme d'une lettre ouverte à Monsieur Le Cornu pour lui dire « Aidez-nous à vivre, et à vivre jusqu'au bout et non pas à mourir ». Donc, il y a eu plusieurs prises de parole et je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri, on va dire, de changement de position et de conscience qui s'éveille. Et il y en a certains d'ailleurs qui ont pris la parole dans les médias pour dire qu'eux, ils ne voteraient pas ce texte finalement, qu'ils ont changé d'avis. Donc je pense qu'on a de quoi faire. Et puis, puisque vous parliez de l'objection de conscience des médecins, justement, il y a une lettre qui a été écrite aussi, une lettre ouverte.
Non, on ne parlait pas des médecins, on parlait de l'objection de conscience
des établissements. des établissements.
Et on a fait référence avant, là. C'est
à la lettre.
C'est pour ça que vous en parlez. Je vois que vous avez les mêmes lectures.
Le collectif Sandy, voilà. C'est,
continuez sur les médecins et l'objection.
Le collectif Sandy, alors je ne sais pas si vous avez déjà cité, mais il disait il serait profondément incompréhensible qu'une loi d'une telle gravité soit imposée par une faible majorité de députés au mépris des réalités du monde du soin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le mépris des réalités du monde du soin, parce que eux, justement, ce collectif Soins de vie est là pour montrer que ce sont eux, ce sont ces médecins-là qui œuvrent au chevet des malades, qui font face à la mort, qui aident chacun à passer ce moment-là inévitable, évidemment, de la mort, et qui, du coup, savent, en fait, ce qui est bon pour leurs malades, entre guillemets, et ce qui est bon pour le service, et disent que, finalement, le fait de créer cette mort provoquée ne serait pas...
Francis ?
Juste une précision, c'est pas simplement les médecins, ce sont les personnes qui sont impliquées dans tout ce qui touche les soins palliatifs, l'accompagnement des malades.
Oui.
Et je dis bien soignants,
y
compris accompagnants ou autres, parce qu'autrement, on pointe sur une catégorie de personnes, alors qu'en fait, vous savez très bien que dans les unités de soins palliatifs, que ce soit dans les unités hospitalières ou à domicile, le rôle énorme des accompagnants, des aides-soignantes, des psychologues ou autres, et tout ça c'est le monde des soignants.
Et même des parents.
Des aidants familiaux, etc. Et ça c'est toute cette galaxie-là, y compris des jeunes étudiants en stage qui viennent au chevet des malades par Charcot. Moi je me suis occupé de malades Charcot pendant 2 ans et demi, et je voyais autour de moi, il y avait effectivement des jeunes externes qui se succédaient, qui venaient de la ENEC ou d'ailleurs, qui se succédaient auprès de ces personnes, pour effectivement les aider à tenir jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontraient, et de manière très humaine. Et ça, c'est pour ça que je me permets de le dire.
Mais vous faites bien de préciser. D'ailleurs, dans ce collectif Soins de vie, il y a justement la Société des aides-soignants. Il y a...
J'en ai parlé tout à l'heure.
C'est très vaste comme signe. Et puis, on a aussi, dans le même article du Figaro de ce matin, il y avait la prise de parole du vice-président de l'association des étudiants en médecine. Il y a une enquête qui a été faite. Alors, ils n'ont pas voulu faire l'enquête de savoir s'ils étaient pour ou contre l'aide à mourir, mais au moins sur la loi telle qu'elle était prévue, les conditions. Et les étudiants en médecine disent majoritairement qu'ils sont inquiets face aux dispositions, qu'ils veulent plus de garde-fous, qu'ils veulent plus de collégialité notamment. Donc je trouve ça intéressant de voir encore cette prise de parole des soignants dans un contexte un peu d'urgence, au moment où la loi peut-être sera votée dans quelques mois, quelques semaines, et bien qu'il y ait encore ces prises de position-là.
Merci beaucoup, Marylis. Alors, nous avons Paul-Marie Couteau au téléphone en ce moment. Bonsoir, Paul-Marie.
Bonsoir, tout le monde. Mais poursuivez, n'interrompez pas votre conversation.
On va revenir à la conversation, mais on voulait parler un peu avec vous de l'actualité du nouveau conservateur, puisque le numéro 30 sur la souveraineté numérique vient de sortir, et vous vouliez nous en dire un mot.
Oui, je crois que j'avais déjà signalé, il y a un très bon article de Thibaut Perrin sur les efforts qu'a fait la France pour garder sa souveraineté en matière non seulement numérique. Je salue d'ailleurs
Francis Joubert, qui a beaucoup contribué à ce numéro sur la souveraineté numérique.
Il a beaucoup contribué à ce numéro. Finalement, la France a tenu le choc assez longtemps. Le plan calcul a eu des rebondissements, et il y a eu le Minitel, et on s'aperçoit en lisant le Thibaut Perrin qu'on a lâché au fond au cours de la présidence Chirac. C'est assez curieux et contrariant. mais j'attire l'attention sur cet article, et finalement, c'est à la fois triste et encourageant. On garde encore des laboratoires, des ingénieurs, enfin, mais on a abandonné la course scientifique, ça c'est un fait, il y a une vingtaine d'années. Est-ce que ça veut dire qu'il est trop tard pour la reprendre? Si on l'a abandonné, c'est très intéressant, c'est parce qu'on a voulu l'inscrire dans un cadre européen, en fait. Absolument. Mais le cadre européen n'a pas du tout pris le relais, ça c'est très typique de
la technocratie européen. Française.
Oui, et puis de l'idéologie européenne, on vous dit... les nations ne sont pas capables de faire certaines choses de trop grande dimension. parce qu'évidemment, il faut des investissements terribles pour tout cela, de même pour l'espace. Alors, ne vous en mêlez plus, l'Europe va prendre le relais, mais elle ne prend pas du tout le relais. Le grand spécialiste, d'ailleurs, pour la procrastination, c'est l'Allemagne, sous couvert de coopération franco-allemande. On a vu ça aussi pour Galileo. L'Allemagne nous dit oui, on va faire ça en partenariat, et puis le temps passe. Et puis finalement, la technique américaine s'impose à l'ensemble de l'Europe, avec la complicité allemande et de cette coopération franco-allemande qui finalement nous a beaucoup retardé. Je regardais de travers un peu ce numéro sur la souveraineté numérique, et finalement, il est très intéressant. Et de même, le dernier numéro, qui, je ne sais pas très bien où il en est, Guillaume, vous êtes plus à la manœuvre que moi, sur la société organique contre le contrat. Là aussi, on a plusieurs contributions de Francis Jubert.
Il est en cours de routage. Je ne crois pas qu'il soit encore reçu. Mais...
C'est difficile, hein, le rythme mensuel, mon cher ami.
Oui, mais pour faire de la politique, je pense que c'est quand même utile d'avoir un rythme un peu...
aussi est intéressant. Enfin, je me passionne par le nouveau conservateur.
Ah bah, tant mieux. Tant mieux. On se réjouit de savoir que Paul-Marie Couteau lit le nouveau conservateur avec plaisir.
Il contribue autant que par le passé lorsque je le faisais, mais c'était à mon rythme trimestriel. Je travaillais davantage. Paradoxalement, vous avez pris le relais et vous menez un train d'enfer. Donc, souvent, je ne fais que suivre. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup. On trouve quand même quelques très bons auteurs. Vous en trouvez, j'en trouve. Et cette revue a acquis une vitesse de croisière, oui, qui est assez satisfaisante. Je m'aperçois d'ailleurs, maintenant que j'ai un peu de recul, puisque je suis parti encore pour écrire mon livre, et que j'ai le temps de butiner, je me rends compte qu'on peut faire des articles dans tous les sens. On pourrait faire des numéros mensuels aussi gros qu'étaient les numéros trimestriels.
Bien sûr.
Enfin, je ne vous demande pas de faire 150 pages tous les mois. On n'y arrivera pas. Mais regardez, quelque chose de très intéressant. Par exemple, j'ai appris, et je le dis parce que ça fait partie de ces petites informations qu'on ne trouve nulle part et qui en disent long, qu'au début de ce mois, du mois de mai, Vladimir Poutine a signé un décret au terme duquel il accordait la nationalité russe à tous les jeunes de Transnistrie qui en feraient, de plus de 18 ans qui en feraient la demande, à condition que leur casier judiciaire soit vierge. Bon. Vous savez ce que c'est que la Transnistrie? C'est cette partie de la Moldavie qui a demandé l'indépendance bien avant la Moldavie, au moment où s'effondrait l'Empire soviétique. Et qui est rempli, enfin, qui est mentalement dans l'orbite russe.
Qui parle russe.
Alors, c'est très intéressant ça, parce que ça prouve que Vladimir Poutine n'a pas du tout renoncé à opérer la jonction avec la Transnistrie, puis avec la Moldavie, puis avec la Roumanie, autre puissance orthodoxe, puis ensuite avec la Serbie. C'est ce qui s'appelle la Nova Russia, c'est très intéressant. Il l'a toujours en tête. Alors, il est difficile de si tant est qu'un jour il obtienne, non pas par la force, mais sans doute par la négociation et par l'étouffement de l'Ukraine, le retour, je dis retour parce que c'est indubitable de d'Odessa à la Russie, il est indubitable que Odessa et toute la région d'Odessa est russe, ne serait-ce que parce que ça n'était rien, si ce n'est des terres extrêmement... impossible à tellement inondées qu'elles étaient impossibles à rendre cultivées. Oui, elles étaient sous la domination d'ailleurs beaucoup des Ottomans. Hein. Elles n'ont jamais été ukrainiennes, ces terres du sud de l'Ukraine qui entourent Odessa. Et c'est Catherine, à la fin du XVIIIe siècle, qui les a asséchées, qui en a fait de très belles terres russes. Et Odessa, qui a été construite, comme vous le savez, au XIXe siècle, au tout début du XIXe siècle, en grande partie avec le duc de Richelieu, c'est une ville franco-russe, ne peut pas rester longtemps ukrainienne. Donc, il le sait très bien, ça, Poutine. Et... ce qu'il fait là, en Transnistrie, vous savez, c'est des petites informations qui en disent long. trouve qu'il ne renonce pas à cette continuité territoriale jusqu'à la Serbie, c'est-à-dire à la part très européenne, centre-européenne cette fois, la Russie est une puissance européenne, mais de l'Est, il ne renonce pas au vieil impérium, si vous voulez. Pour l'instant, il ne peut pas...
Vous ne trouvez pas que c'est un peu inquiétant ?
Mais c'est pour ça que l'Allemagne réarme.
Ça ne m'a pas échappé.
À la tête de la Grande-Bretagne. C'est pour ça. L'Allemagne qui est acharnée à la perte des Slaves, d'ailleurs l'Allemagne a tué beaucoup plus de Slaves que de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est acharné sur les Slaves. Il y a une opposition entre les Germains et les Slaves qui est homérique et plusieurs fois.
Oui, il y a aussi une alliance germano-russe qui est très puissante depuis longtemps aussi, notamment sur les matières premières.
Beaucoup plus conjoncturel, ils s'entendent sur les matières premières, mais il y a une haine de race, on peut dire. Enfin bon, les développements sont longs. En tous les cas, l'OTAN, avec des troupes françaises d'ailleurs, encercle la Transnistrie, si bien que, en tous les cas, tant qu'il n'a pas récupéré Odessa, ce qui me paraît être le cœur de l'affaire ukrainienne, Poutine ne peut pas pénétrer en Transnistrie. Mais vous voyez la ruse qu'il utilise, c'est-à-dire en transformant les habitants de Transnistrie en Russes, avec la nationalité russe. Et ça redessine le paysage de l'Europe au XXIe siècle. On peut penser à un impérium russe qui s'avance jusqu'au centre du continent, qui se heurte à l'Allemagne, et qui est aidé, d'ailleurs, le réarmement allemand est très aidé par les banques anglaises, comme les banques anglaises ont aidé l'armement du Deuxième Reich, Guillaume, puis du Troisième Reich, entre les deux guerres, avec l'entente entre... la Banque d'Angleterre et Chartres, le ministre d'économie, enfin Branca explique ça très bien dans la succession de livres. Mais vous voyez, et pour la France, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien qu'elle peut retrouver un rôle énorme si tant est qu'elle sorte de l'orbite allemande. Moi, je pense que les grands problèmes de la France aujourd'hui viennent de ce que sa diplomatie est mal réglée depuis la Seconde Guerre mondiale. Et que ces véritables alliances, c'est la Russie, c'est la latinité, c'est la francophonie, c'est l'Afrique, c'est pas du tout l'Allemagne, c'est pas du tout les États-Unis, c'est pas du tout la Grande-Bretagne, c'est pas du tout l'Europe, c'est pas du tout Bruxelles.
Bon. Est-ce que vous pensez que c'est incompatible ou, parce qu'on pourrait très bien avoir des alliances américaines en même temps que des alliances latines?
Non, c'est incompatible parce que la race anglo-saxonne, qui est scandinave, allemande, britannique et américaine, nous sera toujours opposée, elle est toujours dominante, elle tente à écraser ce qui n'est pas elle, et notamment la France. Et je pense que notre jeu est un jeu d'alliance avec la Russie dans cette perspective-là. Enfin, c'est très intéressant. De même, je voulais vous poser une question avant de vous rendre la parole, mais ça me brûle ce jeu. Est-ce que les uns et les autres, Francis par exemple, ou vous-même Guillaume, vous savez dans quel pays il y a eu le plus de morts pendant la Première Guerre mondiale? J'ai appris ça avec stupéfaction.
Non.
Dites par exemple quel est le pays qui a souffert du plus grand nombre de morts entre 14 et 18 ou 19.
J'aurais dit la Russie, mais j'en sais rien.
Eh bien, c'est pas loin, parce que c'est numéro 2 la Russie. 3,2 millions de morts. L'Allemagne vient ensuite avec 2,4 millions. Puis la France, 1,7. Puis la Serbie, 1,3, à peu près autant que l'Autriche. Puis l'Italie, 1,2. Alors la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui passent pour les grands libérateurs, ayant consenti un très faible nombre de morts. Enfin, moins d'un million pour la Grande-Bretagne en tous les cas, et 120 000 pour les libérateurs américains qui ont... consenti beaucoup moins de sacrifices. Eh bien non, il y a encore un pays qui a souffert beaucoup plus et je laisse ça à votre... Vous pouvez faire un papier dans le Nouveau Conservateur là-dessus, c'est intéressant, à votre sagacité, parce que ça a des conséquences énormes encore ces derniers temps. Figurez-vous que c'est l'Iran.
Pendant la Première Guerre mondiale?
Oui.
Ah bon?
5 millions de morts. 5 à 6 millions.
Ouais. Alors ça, vous me laissez pantois.
Eh oui, parce que l'Iran, et d'ailleurs l'ensemble... et l'Empire ottoman, ont beaucoup souffert de l'organisation par les Britanniques d'une famine qui a été dévastatrice, à peu près à la hauteur de l'Holodomor de 1930 en Ukraine, justement. D'accord. une famine terrible organisée par les Britanniques contre ce peuple iranien que les Anglo-Saxons n'ont jamais pu sentir, et ça continue encore aujourd'hui. Et réciproquement, si l'Iran est si acharné à résister aux Anglo-Saxons, Britanniques et États-Uniens, c'est parce qu'ils les ont sur le dos depuis un siècle. Et que vraiment la famine organisée par les Britanniques, qui est très mal connue, qui est maintenant beaucoup mieux documentée, notamment par des travaux, parce qu'ils sont incomparables, menés par des historiens états-uniens, notamment une école de Chicago, à la faveur des événements d'Iran, réhabilite cette vérité. Le pays qui a le plus souffert du conflit par le biais des Britanniques, du premier conflit mondial, c'est l'Iran. Et vous comprenez pourquoi ce peuple est tellement à cran contre les Anglo-Saxons. Ça fait plus d'un siècle que ça dure. Principalement, d'ailleurs, le but est de les affamer ou de les réduire pour pouvoir exploiter les ressources pétrolières. Mm-hmm. Ils avaient essayé de se rebeller dans les années 50 avec le fameux Mossadegh. Ouais. Les États-Unis leur ont envoyé le fameux chat, Pahlavi, qui est vraiment un collabo de première. Et vous voyez, si je peux conclure là-dessus, c'est très étonnant quand on regarde les informations, ce que je ne fais pas, quand on écoute les informations sur n'importe quelle chaîne, France Inter, CNews et tout ça, ça revient au même. Toute cette ancienneté du conflit est occultée. On ne veut voir que l'opération de janvier dernier, une opération étrangère d'ailleurs, qui a secoué le bazar de Téhéran et des principales villes iraniennes, pour faire un soulèvement en montée de toutes pièces, à mon avis. D'ailleurs, tellement montée de toutes pièces que ce soulèvement a fait plusieurs centaines de milliers de morts, mais on dit 30 millions, 40 000, alors qu'il n'y a pas eu 30 000 ou 40 000, il y a eu un millier de morts peut-être, mais bon, la propagande est allée très loin. J'ai même entendu dire, parce que je ne regarde pas ces news, que Christine Kelly, qui est très forte dans ces domaines, est même allée jusqu'à 50 000 morts dans la répression.
Cher Paul-Marie, je vais devoir vous arrêter parce que nous arrivons au terme de l'émission. Donc, allez-y, finissez votre phrase. Et
vous voyez comme on peut, et je pense à ça pour le nouveau conservateur, par l'histoire, par des petits faits parlants, je parlais de la Transnistrie, je parle de l'Iran, comprendre beaucoup mieux ce qui se passe aujourd'hui. Je suis d'ailleurs assez étonné que, pour finir, que les Français qui sont des catholiques prennent tellement le parti pour les agresseurs anglo-saxons, alors que les agressés de longue date sont les Iraniens. Si nous sommes catholiques, comme le pape, nous sommes du côté des agressés et des Iraniens dans cette affaire.
On peut être du côté des Iraniens sans être du côté des mollahs. C'est quand même deux choses différentes, on est d'accord.
Non, il n'y a plus de mollahs, rassurez-vous. Non, mais on en reparlera. Il faut que j'écrive un article pour vous. On va le mettre
Cher Paul-Marie, on arrête. Merci. Bonne soirée, chers amis auditeurs. Ainsi s'achève notre émission.
Vous venez d'entendre les répliques du nouveau conservateur dirigé aujourd'hui par Guillaume de Thieulois, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 27 mai 2026 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.